ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires. Une émission proposée par le conteur Michel Lidoux. Des histoires, des contes, des reportages, des informations. Bref, enfin tout ce qu'il faut savoir quand on aime les histoires.
Amis des histoires, bonsoir. Pour cette nouvelle émission, j'ai décidé de consacrer celle-ci à une personne qui m'était très chère, une conteuse qui s'appelait Fiona MacLeod. Fiona MacLeod, c'était une conteuse écossaise qui vivait dans le Finistère. Elle nous a quittés le 31 décembre 2018, beaucoup trop tôt. Fiona, elle était une militante infatigable de l'oralité, une têtue au sens noble du terme, qui pratiquait, vulgarisait, cherchait, valorisait tout ce qui pouvait permettre à tout un chacun de s'emparer de la parole conteuse et de l'imaginaire. Voici un texte que Fiona avait écrit pour une réunion des conteurs à l'Ouest en 2017. Utopia, quand on rêve à toi. Je soupire pour un pays où l'art d'écouter serait l'art le plus valorisé, où les politiciens, les enseignants, les technocrates, les bureaucrates, les industrialistes, les gendarmes, les scientifiques, les médecins, les parents, les artistes et même les enfants recevront tous une formation à l'art d'écouter et que leur plus grand désir deviendra celui d'écouter les enfants et les gens les plus faibles, les SDF, les pauvres, les malades, les vieillesses vulnérables, les délinquants, les voleurs, les nuls en mathématiques et les nuls en sourire. Si, si, c'est important de les écouter aussi. Et je rêve d'un monde où chaque enseignant de maternelle, de primaire, de collège et de lycée recevra une formation à l'art de compter et à l'usage du langage symbolique. Imaginez ces classes où l'oralité s'apprendra dès 3 ans, en petits groupes de 5 à 6 élèves, tous qui auront choisi eux-mêmes l'apprentissage du conte ce jour-là, et où les enfants les plus âgés enseigneront aux plus jeunes. Et par la suite, dans les cours de récré, tricoteront les contes entendus en classe, à l'envers et en riant beaucoup. J'aimerais voir les classes où, lorsqu'un enfant arrivera d'une autre ville, voire d'un autre pays, aussitôt, on lui suppliera de raconter les histoires, les récits et les contes de son lieu d'origine. Surtout, on s'intéressera aux différences exprimées dans ces récits. Et puisqu'on aura aboli depuis belle lurette le système non productif des notes et des examens, les enfants et les adultes parleront sur pied d'égalité, les uns partageant leur expérience, les autres offrant leur regard neuf. D'ailleurs, les personnes seniors viendront souvent partager la vie des classes. De la même manière, des familles seront entraînées à écouter. Les parents écouteront leurs enfants avec patience et les enfants écouteront les aînés avec délice. Des familles où on partagera les récits de la vie quotidienne, où chacun racontera ses rêves au petit déjeuner. Et surtout, où les contes de la littérature orale circuleront sans entrave. Les concours de devinettes seront revenus à la mode et les virelangues se débiteront en montant et en descendant les escaliers dans une oralité rieuse, joyeuse et créative. Puis les médecins, ayant été formés au conte depuis leur enfance, sauront écouter leurs clients. Oui, vraiment écouter. Et proposeront des comptes pour accélérer la guérison. D'ailleurs, les seules guerres, puisqu'on aura banni toutes les armes et toutes les bombes. Ah ben oui, quoi ? Une utopie, c'est fait pour rêver jusqu'au bout. Toutes les guerres seront des joutes de contes amicaux entre les peuples. Les Jeux Olympiques de la narration. Et le gagnant doit savoir manier le silence. Car oui, le silence sera aussi valorisé dans mon monde utopique. On vivra des journées entières dédiées au silence. Des festivals silencieux. Je n'ai pas assez de temps pour vous parler de toutes les autres merveilles de mon utopie. Mais vous pouvez être sûr que les chats, les chevaux, les jardins potagers, les balades en bordure de mer, les levées de lune, les musiques du monde, les gâteaux de Noël, les nuits étoilées, les tambours chamaniques, par mille et une autres merveilles, vous pouvez être sûr qu'ils seront honorés. Bravo, vous êtes arrivé au point final. Ce point qui n'est finalement que le début de ma rêverie. Amitié utopique, Fiona MacLeod.
Oui, moi je suis conteuse professionnelle. Et je gagne ma vie en disant des contes avec ma parole. Mais compter pour moi, c'est pas uniquement une question du travail ou de gagner ma vie. Compter, c'est ma passion. Compter, c'est ma vocation. Compter pour moi, c'est essentiel. Essentiel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose, un aspect de mon travail qui me tient à cœur. C'est de mettre ou de remettre l'art de conter au sein de la famille. Je voudrais parler de pourquoi moi j'estime que c'est très important qu'on conte dans nos familles. Et pour cela, je vais vous raconter un tout petit peu mon parcours. Je suis née en Écosse, d'une famille nombreuse. J'ai 6 frères et sœurs. Je viens d'une assez bonne famille. Ma famille m'a donné le goût des livres. J'adore toujours la lecture, le goût de la nature. Et puis, j'ai reçu une bonne éducation. Je suis globalement polie. Mais dans ma famille, l'oralité manquait. Combien de fois n'ai-je entendu « Les enfants doivent être vus, mais pas entendus ». Et puis, je me rappelle un jour, je devais avoir 12 ans. Je rentrais d'une journée au collège. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle plus. Mais j'avais une forte envie de dire ma journée à ma mère lorsque je suis arrivée à la maison. Ma mère faisait du repassage. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le pile de repassage que cet enfant, plus elle-même qui travaille et son mari qui travaille, ce que ça peut faire. Ma mère, elle n'était pas prête à m'écouter. Et ce jour-là, j'étais déçue, j'étais triste, j'étais fâchée. Je me disais, mais ma mère, elle ne m'écoute jamais. Et puis, le temps a fait son travail. Maintenant, j'étais à Paris, j'avais 32 ans. Et là, ma vie est changée. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un conteur qui racontait des histoires en oralité. Ses contes, sa parole, ça m'a ébloui. Et puis, ça m'a donné une forte envie de me mettre en quête moi-même pour comprendre les contes, pour entrer dans ce monde. Alors, j'ai commencé à chercher, j'ai fait des stages, je suis retournée en Écosse, j'ai fait du collectage de contes. Et au bout d'un moment, je suis revenue ici, j'ai commencé à les compter. Et puis, au bout de 5 ans d'apprentissage, je suis devenue conteuse professionnelle. Et là, j'étais invitée du nord, du sud, d'est en ouest, en France, partout. J'ai rencontré les 1000 paysages, les 3000 villages, les villes, les gens et les 10 000 spécialités de la nourriture française. Grise, elle était mère de familles nombreuses. Et vous savez combien de souriceaux elle avait? 127. Ah oui, grande famille. Hein? Mais alors, est-ce que vous connaissez la spécialité des enfants?
Oui. Les attrapent, les souris.
Ah oui, les enfants attrapent les souris, mais les enfants dans une famille, comme les enfants des souriceaux, c'est-à-dire les souriceaux comme enfants. Vous savez ce qu'ils sont spécialistes à faire?
Des bêtises.
Oui, des bêtises. Et surtout de se disputer. Ah, parce que les frères et les sœurs, c'est pas facile, hein? Et donc, et en plus, quand ils se disputent, ils font du bruit. Ça, c'est un souriceau. Multipliez pas. Alors, ce matin-là, la mère souris, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, ça suffit les enfants, on va aller faire une petite balade dans le parc. Vous allez me suivre. Et voici que tous les petits souriceaux, ils sont partis marchant à la manière d'une souris, à la queue leu-leu. Donc, ça faisait un long cortège. La maman souris en tête, les 127 derrière. Et ils étaient en train de marcher tranquillement quand qu'est-ce qui a sauté de derrière un arbre?
Un chat?
Et pas n'importe quel chat. Un chat gigantesque, presque aussi énorme que le troll. Et ce chat s'est mis à se lécher les babines à la vue de toutes ces petites souriceaux succulents. Mais la mère, elle a regardé le chat, elle s'est tournée vers ses enfants. Elle a dit, vite les enfants, rentre à la maison. Et là, il ne fallait pas qu'elle le dise deux fois. Là, une seule fois, tous les petits souriceaux, demi-tour, est parti se cacher dans la maison. Et restée seule avec le chat, la mère souris, elle a regardé le chat droit dans les yeux et elle a dit, ouf! Eh bien, vous rigolez, mais ça a marché. Le chat s'est mis à trembler, trembler, trembler. Il a fait demi-tour, il est rentré chez lui.
ce qui fait que la maman souris est rentrée, elle a retrouvé ses enfants, elle les a rassemblés et elle a dit, vous voyez les enfants, ça c'est l'avantage de savoir parler des langues étrangères.
Maintenant, je vous propose d'écouter une captation sonore qui a été faite lors d'une soirée hommage à Fiona MacLeod. Cette soirée s'est déroulée le samedi 11 janvier 2020 dans la salle du théâtre de Pont-Croix avec le collectif des conteurs à l'Ouest. Et voici tout d'abord la chanteuse et conteuse Brigitte Cloarec.
Voilà, Fiona, en fait, quand j'ai rencontré... Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'est « We must work together ». Ok. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec Fiona, elle m'a fait devenir un petit peu conteuse, un tout petit peu, mais elle m'a vraiment botté les fesses, enfin, j'ai pas eu le choix, quoi. C'est comme ça que ça marche le mieux, finalement. Mais au départ, elle voulait que je chante des chansons écossaises quand elle racontait des contes écossais pour donner une langue à entendre. C'est un peu notre conversation de ce soir au repas là à Bezec. Et donc c'est une chanson qui s'appelle Bonnie Glenshee. Glenshee c'est une montagne, mais en fait dans la chanson on les appelle Yon High Hills, donc ce sont juste des... Et c'est donc en ce qu'on appelle Scots, le dialecte écossais qui vient de l'anglais, mais qui a aussi des apports de scandinaves, des apports français aussi, puis il y a eu pas mal de princesses françaises à être mariées à des rois d'Écosse. Et donc, ça dit simplement « Busk, busk, bonnie lassie, and come a war with me. » »« Prépare-toi et viens avec moi. » C'est un gars qui va emmener une fille quelque part. Et que même les hautes montagnes couvertes de neige ne les sépareront pas. Et là-bas, il y a des soldats peut-être. Là-bas, il y a des bergers avec des moutons, mais viens avec moi. « Busk, busk, bonnie lassie, and come a war with me. » And I'll take you to Glen Island, near Bonnie Glenshee. Oh, there you see young soldiers as they march along with their muskets on their shoulders and their broadswords hanging down. Busk, busk, bonnie lassie, and come woe with me, and I'll tak ye the Glen Island near Bonnie Glenshee. shepherds as they walk along with their plaids round about them and their sheep they graze on. Busk, busk, bonny lassie, and come away with me, and I'll take ye to Glen Isla, near bonny Glen Shee. Oh, dear, you see yon high hills all covered with snow. They've parted, money's a true love, but they'll never test woe. Busk, busk, bonnie lassie, and come woe with me, and I'll take ye to Glen Isla, near bonny Glen Shee, and I'll take ye to Glen Isla, near bonny Glen Shee.
Alors, Brigitte Cloarec, oui. Tu as travaillé et tu as bien connu Fiona.
Oui, exactement. J'ai rencontré Fiona, c'était lors d'une lecture de poésie dans le cadre du Festival de la Parole Poétique à Mouélan. Et je faisais une lecture avec une amie wallonne. Et Fiona a été amenée par le président de l'association Bretagne-Écosse. Et il nous a présenté, et tout de suite, Fiona m'a dit « We must work together ». Il faut qu'on travaille ensemble. Bon, moi, j'ai dit, elle pétillait tellement, j'ai dit « Oh, bon, aucun problème ». Et puis, on a juste commencé. En fait, moi, je faisais pas de compte à l'époque, j'en fais pas encore beaucoup, mais en fait, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir du chant dans les spectacles quand elle parlait de l'Écosse, quand elle racontait des contes écossais, qui est une ambiance, qui est un petit peu une langue qu'on puisse entendre. Et puis du coup, moi, j'ai passé pas mal de temps en Écosse au contact de gens qui chantent en Scots. Et puis voilà, et c'était quelque chose qu'on partageait aussi, vu que j'avais passé pas mal de temps là-bas, que je connaissais des chanteurs, etc. C'est quelque chose, je pense, qu'on partageait. Ça lui permettait de parler un peu du pays, si on veut, et puis parler en anglais aussi de temps en temps. Voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir parler de choses dans la langue du contexte, si on veut, quoi. Et puis, en fait, un très bon souvenir que j'ai avec elle, c'est d'être allée au Festival du Conte à Édimbourg. On a dû partir pour 15 jours. Elle avait organisé. Elle voyait des choses en grand, Fiona, je trouve. Très bien.
Oui.
Très bien de voir tout en grand. Et on était partis pour 15 jours à Édimbourg. Et dans le cadre de ces 15 jours-là, donc on a été à beaucoup de spectacles. J'ai rencontré des gens avec qui je suis aussi toujours en contact. Une harpiste japonaise et son mari qui est écossais, qui est conteur. C'est aussi un festival qui voyage. Donc il y avait des choses à Édimbourg, mais il y avait également des choses ailleurs. Donc un matin, on s'est retrouvés sur un quai de gare, et puis on est partis. On était rencontré une autre conteuse qui jouait aussi de la harpe. Et puis là, elle avait préparé quelque chose dans un bois avec des lumières, des yourtes, etc., près d'un lac. Enfin voilà, c'est des souvenirs un peu féeriques d'arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, qu'on découvre comme ça dans un environnement assez spécial. Et puis bon, les conteurs se succédaient dans les yourtes. Enfin, c'était vraiment déjà super là d'avoir rencontré Claire aussi.
Claire,
je ne me rappelle plus de son autre nom. Ça va me revenir, mais je ne sais plus. Et puis un autre très bon souvenir que j'ai aussi avec Fiona, c'est d'être allée au château des Ducs d'Atholl. Elle avait organisé une soirée avec deux autres conteuses écossaises, une qui s'appelle Sheila Stewart, qui est d'une famille des gens du voyage. C'est eux qui sont les dépositaires de ces traditions orales en fait en Écosse et qui sont reconnus comme étant vraiment ceux qui ont gardé et qui ont transmis. Et Sheila Stewart, moi je la connaissais en tant que chanteuse. Ça faisait des années que je la rencontrais en Irlande à chanter. Et là, j'ai retrouvé Sheila dans un autre contexte. Et c'est sans doute une des dernières fois. Sheila Stewart était assez âgée. Et je pense que c'est une des dernières fois où elle a fait quelque chose. Elle ne se produisait plus vraiment en public, mais elle avait accepté de venir. C'était une ambiance conviviale. Et donc, Fiona avait donc organisé une soirée. Il y avait une soirée qui avait été organisée avec Fiona, avec Sheila Stewart et une autre grande conteuse qui est Jessie Smith, avec qui elle a ensuite beaucoup travaillé sur le projet The Heart of Scotland, cette histoire de petit cœur qui est dessiné en pierre blanche dans un endroit en Écosse, qui est en fait une trace des gens du voyage. Ils n'ont pas de traces comme nous, on peut avoir des traces de bâtiments, etc. Et donc il y a cet endroit-là qui a maintenant été... que Jessie Smith a beaucoup contribué à faire reconnaître par le Parlement écossais et qui est maintenant au moins un peu protégé, puisqu'en fait il était dans un champ où il y avait des animaux, donc c'était qui marchait dessus et tout ça. Donc c'est en fait un petit peu une sorte de point de ralliement. C'est là par exemple que les gens du voyage viennent pour faire leurs vœux pour se marier. Enfin voilà, c'est un petit peu leur endroit de cette population qui est toujours en mouvance, bon, qui bouge beaucoup moins maintenant. Mais qui jusqu'à encore récemment quand même, hein, jusqu'à la fin du XXe siècle, était quand même sur les routes, quoi. Beaucoup sont sédentarisés. Sheila Stewart, qui faisait partie de ces familles, de ce genre de famille-là, par exemple, était sédentarisée, moi, quand je l'ai connue. Mais bon, c'est des gens qui avaient encore beaucoup, beaucoup d'attaches avec ce mode de vie. Quand on voit des photos, même des années 50 ou 60, on a du mal à imaginer des gens qui vivent en caravane, pas des caravanes comme on voit maintenant, hein, des caravanes vraiment bâchées, tirées par un cheval.
Ah, enfin, des chevaux.
Ouais. Ouais, c'est vraiment. Et quand on se plonge dans ces archives, là, on a l'impression d'un autre monde. Un autre monde complètement. Ça, c'est un souvenir absolument. Féerique, quoi. C'est un grand, grand château blanc, mais vraiment un château. Presque de conte de fées, quoi, un grand, grand château blanc avec plein de tourelles, etc. Et on était rentrés là, je me rappelle, alors c'était un côté assez triste, il y avait une longue galerie avec tous les bois de serre qui se retrouvaient au-dessus comme une... quand on dit sous la ramure, c'est ça. Et c'était intéressant parce que j'ai aussi découvert à cette époque-là un personnage, une des filles d'un des ducs d'Atoll au début du XXe siècle. En fait, c'est une jeune fille donc de la haute société, hein, le duc d'Atoll, c'est très proche de la famille royale britannique, etc. Et cette fille-là, ça l'intéressait pas d'aller se montrer dans des belles robes à Londres, de faire sa sortie dans la vie mondaine, etc. Elle, ce qui l'intéressait, c'était les contes. Et elle est allée, je me rappelle plus de son nom parce que j'ai pas du tout préparé cette interview, comme tu le sais. Mais elle est allée en fait, elle a demandé à apprendre le gaélique. Et à cette époque-là, dans le Perthshire, d'où venait Fiona, les gens parlaient encore gaélique. Et c'est en partie grâce à ces collectages qu'on a toutes ces traces-là. Elle allait dans les petites chaumières, en fait, se faire raconter des histoires. Elle les notait, etc. Elle était complètement passionnée de ce travail d'oralité. Et elle avait les moyens. Donc, elle a eu les meilleurs professeurs de gaélique de Glasgow et d'Édimbourg qui ont été mis à son service, etc. Ses parents, sa mère, son père lui cédait assez volontiers à cette fille-là, mais sa mère un jour a insisté que bon, c'était bon, elle avait fait ça, maintenant il fallait qu'elle assume ses responsabilités de fille de l'aristocratie, quoi. Ah, c'est ça. Et en fait, ça a été impossible pour elle. Elle est devenue complètement neurasthénique, qu'on l'empêche de faire ça, et elle a demandé du coup à venir en Bretagne. Elle est venue en Bretagne et elle a commencé à apprendre le breton. Et pareil, sa mère a toujours insisté. Il fallait toujours qu'elle revienne chez elle et puis qu'elle prenne sa place, quoi. Elle a fini par couper avec sa famille. Elle n'est pas restée, c'était dans le coin de Morlaix qu'elle est venue. Et elle a fini par, je pense qu'elle a dû faire un passage par la Suisse. Et elle est devenue une très très grande brodeuse. Ça, c'était une activité qu'on pouvait tolérer beaucoup plus facilement que l'oralité allait se mélanger avec le bas-peuple, si on veut. Enfin, c'était un peu ça comme mentalité, quoi. Elle est quand même restée en contact avec ses frères. Quand ses parents sont morts, ses frères se sont beaucoup rapprochés d'elle, l'ont aidée, etc. C'est une vie assez atypique pour quelqu'un d'où elle vient, quoi. Et l'ont aidée, etc. Et en fait, elle avait consigné tous ses comptes. Et elle les a donnés. Elle est morte assez jeune. Elle a donné ses comptes à un ami en disant « Ça, c'est précieux, il faudra s'en occuper après, quand je ne serai plus là, il faudra les publier, etc. » Et malheureusement, cette personne à qui elle a donné ses comptes est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était pilote, si j'ai bon souvenir. Et donc, les comptes sont restés. Et ils ont été publiés, je pense qu'ils sont sortis à peu près à l'époque où je suis allée à Édimbourg. Moi, j'ai trouvé le livre que j'ai acheté, du coup. Et donc, tous ces comptes-là... alors, je pense que ça n'a pas forcément été écrit en gallique, ce n'est pas une langue qu'elle maîtrisait à ce point-là, mais je pense qu'il y a une transmission déjà d'une matière gaélique, disons, en anglais, mais c'est un livre, je pense, assez fabuleux vu l'histoire qu'il y a derrière, quoi. Et quand... c'est dommage que son nom m'échappe, mais peut-être qu'une autre fois, je retrouverai son nom. Et quand ses frères l'ont ramenée à Atoll, elle a été enterrée dans le jardin du château d'Atoll. Et des gens qu'elle avait collectés, les enfants des gens qu'elle avait collectés sont venus porter son cercueil. Et dans la mythologie celtique, l'oiseau qui accompagne la mort, c'est le cygne. Et les gens racontent avec beaucoup d'émotion que quand on a porté cette jeune fille là, vers sa tombe, en fait, il y a des lacs qui passaient sur des cygnes qui passaient sur le lac à côté. Et ben, je trouve que c'est une histoire assez merveilleuse de conteur. On pourra peut-être en reparler quand j'aurai plus de détails et plus de choses. Et le livre, enfin, voilà, je pourrais peut-être envoyer les références, il y en a que ça intéresse de regarder. Voilà, mais comment la passion du conte, ben, parfois ça vous mène...
Très très loin.
Par le bout du nez, voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut résister.
Eh bien, merci beaucoup Brigitte.
Voilà.
Ça va faire des histoires.
Vous écoutez « Ça va faire des histoires ». Une émission de Michel Vitou.
Allez, on revient à la soirée des conteurs à l'Ouest avec Michel Fitamant qui nous a confié quelques anecdotes succulentes.
Alors moi j'ai une petite anecdote.
Je serais bien là.
Fiona, je l'ai connue pendant 25 ans. L'une des anecdotes dont je me souviens précisément, c'est elle devait aller compter, elle était invitée par un grand groupe industriel, vous imaginez Fiona là-dedans, à l'époque où elle comptait les comptes de whisky. Et donc, elle a invité dans un grand palace. Elle avait une suite incroyable ça changeait de sa maison un petit peu. Hein, elle avait... c'était le groupe Chivas. Vous savez, vous connaissez le whisky qu'on boit en boîte de nuit. Là. Et évidemment, elle a été l'objet de pressions très fortes de la part des cadres de l'entreprise. Pour qu'elle cite au moins 50 fois dans ses comptes Chivas. Chivas. Et évidemment, vous connaissez Fiona, elle refusait de se laisser corrompre. Mais alors, elle a été l'objet de pressions assez incroyables, hein, parce qu'elle a été invitée, c'était 2 jours. Et on venait pratiquement toutes les heures à la porte de sa chambre en lui disant, ou partout, voilà, il faut absolument, parce qu'autrement le contrat ne se fera pas, quoi. Et c'était un contrat qui était quand même un peu juteux, hein. Donc ça pouvait être intéressant. Et donc elle disait, non, je préfère rompre le contrat. La soirée se passe quand même, elle compte ses comptes du whisky. Et elle ne cite pas une seule fois Chivas. Ben, je peux vous dire qu'elle était très, très fière. Et donc, tous les cadres d'entreprise, etc., ils ont été obligés d'accepter Fiona telle qu'elle était. Hein, et là, ben, voilà, c'est Fiona telle qu'on l'a connue, intègre, et voilà, elle n'aurait rien, pour rien au monde, vendu son âme au diable. Et une autre anecdote, c'est en 2016, c'était pour le festival Grande Marée de la DAO à Brest. Ça, elle comptait dans le musée de la marine, et donc juste dans une très belle salle où il y a des statues en bois magnifiques, des proues hein, de bateaux. Et donc on s'installe tous dans la salle, le public était là, et puis ça devait démarrer, et pas de Fiona. Fiona avait disparu. On attend, et il se passe 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et toujours pas de Fiona. Alors tout le monde commençait à paniquer, hein, les bénévoles de la DAO, ça commençait à... On se demandait qu'est-ce qui se passait, quoi. Et puis, donc on est parti dans tout le château la rechercher. Et on se disait, c'est pas possible, elle a eu un malaise quelque part, on est allé dans les toilettes, on est allé partout. Et on a cherché pendant une demi-heure. Et je peux vous dire que le château de Brest, hein,
c'est grand.
On peut perdre une Fiona, il n'y a pas de problème. Hein. Donc toutes les salles, avec tous les bateaux en exposition, on l'a cherché partout. Et puis, désespérément, on est revenu vers la salle. Et puis, tout d'un coup, il y a un enfant qui dit « Ah, mais elle est là !» En fin de compte, elle était cachée dans un recoin de la salle, juste derrière un meuble, et elle attendait que tout le monde se calme, en fin de compte. Et elle a attendu comme ça au moins trois quarts d'heure, une heure. Hein. Et donc, elle a commencé à compter, et après, voilà, tout le monde s'est... rassurée, voilà, elle va bien, et puis on s'est tous assis, et puis on a ouvert grand nos oreilles, et puis on l'a écoutée. Voilà.
Frédéric Soulard.
Alors, je suis une conteuse moderne, et je ne vais pas vous raconter le conte, je vais vous lire un texte que j'ai écrit, parce que je ne sais pas bien les apprendre par cœur. Et comme ce n'est pas imprimé, j'ai mon ordinateur. C'est expérimental, je n'ai jamais fait ça, mais vous allez voir, ça va marcher. Et donc, le titre de ce texte, c'est « Mon métier de conteuse ». J'avais noté dans mon agenda « Spectacle, personnes âgées, 80 ans, Alzheimer, Brit Hotel sur la 80. » Je suis allée un peu inquiète. La responsable n'était pas là pour m'accueillir. J'ai juste vu les vieux et des gens. Ensuite, elle est arrivée, dynamique, sympathique, et m'a dit « Je vous envoie des jeunes pour vous aider à ranger la salle où vous racontez. » C'était la salle de leurs animations, peintures et travaux manuels. J'ai vu arriver deux enfants de 7 ans. Je me suis sentie troublée et un peu déprimée 1h30 avant ma prestation. Déjà que naturellement, je suis traqueuse, là, vous m'en rajoutez. Finalement, un ado est arrivé. L'ado, les enfants et moi, nous avons rangé et j'ai installé mes décors habituels de tissu et mes petites lampes de chevet. Côté public, nous avons installé des chaises à gauche de l'allée. À droite, il y aurait les chaises roulantes et devant, les enfants assis sur le sol. Je suis sortie hors de la salle, conversée avec mon futur public qui arrivait lentement. Par un, par deux, par trois, qui à pied, qui en chaise roulante. Quelques-unes des vieilles dames m'ont dit, effrayées, qu'elles ne voulaient pas m'entendre compter. Elles sont restées assises dans le couloir. Nous avons attendu l'arrivée des dernières chaises roulantes. Nous avons commencé en retard. J'ai raconté pour un public de 7 à 96 ans. La porte du fond, face à moi, était ouverte. Certaines femmes se sont endormies, deux autres sont parties. Une placée juste devant moi, à gauche, me regardait en répétant « Elle est folle !» Mais dans l'ensemble, tout le monde a été très bien, c'était super. Jacqueline, dont les autres m'ont dit après qu'elle ne tenait jamais en place, me regardait avec, dans les yeux, les étoiles du merveilleux. J'ai été applaudie sincèrement. La doyenne des 96 ans m'a félicitée en me disant que j'avais été parfaite. J'étais à genoux devant sa chaise roulante, cependant qu'elle me racontait ce que c'était qu'être vieux. Elle disait « Quand on est vieux, on est comme un enfant, sauf qu'on a toute une vie derrière soi. » Et je buvais ses paroles comme paroles de sagesse. Je suis partie avec 2 heures de retard, car la femme qui m'embauchait n'avait pas fait les papiers du buseau, et nous avons tenté sans succès de les faire ensemble. Ensuite, je suis allée dire adieu à tout le monde dans la salle à manger. Dans ces moments-là, je sais pourquoi je fais ce métier de contrat à l'arrache, à bas prix, sans sécurité d'emploi ni même d'accueil, où je vais parfois en me disant « ils ont oublié que je viens ». Mais moi aussi, à mon tour, j'ai dans les yeux les étoiles de ce groupe marginal, cosmopolite et affectueux, totalement surréaliste, de vieux, entourés de femmes dévouées, d'ados bénévoles, d'enfants accompagnants en vacances dans le Brit Hotel, qui du coup en est devenu sympathique. Ça me plaît d'être une star du merveilleux dans les petits mondes. Le succès ne dépasse pas les grilles de ces salles où je raconte en huis clos, mais il est dans le cœur des gens. Pas de projecteur pour moi, mais mes lampes de bureau. Pas de loge, mais les toilettes ou sous la table. Je ne suis pas une professionnelle de la scène, je suis juste un peu professionnelle du merveilleux chez lui. Mais juste avant le spectacle, c'est vrai, je suis traqueuse. Là, je passe, c'était avant d'entrer. Et il y a une belle qui me dit, moi, j'aime pas les contes.
Lucas Nedelec.
Celle-là, quand elle est née, elle avait le cordon ombilical qui était tout emberlificoté autour de ses doigts de pied. Personne n'a rien dit. Non, non, personne ne s'est plaint, ça dérangeait personne qu'elle fasse des nœuds aussi jeune. Et puis elle a grandi et quand elle a pris de l'âge et qu'elle est devenue une femme, on lui a expliqué l'histoire de sa naissance et on lui a expliqué pourquoi est-ce qu'elle s'appelait comme ça. Née en faisant des nœuds, c'était son nom. Et alors quand on lui a expliqué l'histoire de son nom, elle s'est remise à faire des nœuds. Elle faisait des nœuds tout petits et tout serrés comme des noyaux de cerises. Elle attachait tout avec tout. Et quand on venait chez elle, dans sa maison, on pouvait voir les torchons qui étaient attachés aux cuillères, qui étaient attachés aux serviettes, qui étaient attachés au couteau, qui étaient attachés à la bouilloire, qui étaient attachés au pied de la table. Et quand on lui demandait « Mais pourquoi est-ce que tu fais des nœuds comme ça, comme des petits noyaux de cerises ?» Elle disait que ça venait d'un rêve qu'elle avait fait une nuit. Et dans son rêve, un fleuve en crue venait jusqu'à sa maison et rentrait par tous les trous, par la cheminée, par la fenêtre, par le trou en dessous de la porte. Et le fleuve emportait tous les objets de la maison et s'en allait plus loin avec les objets dans un torrent de boue. Alors elle faisait des nœuds. Comme ça, si le fleuve venait, elle était sûre que ses objets resteraient avec elle. Et puis un jour, elle a juste arrêté de faire des nœuds. Elle a arrêté aussi soudainement qu'elle avait commencé. Les fourchettes, les torchons, les couteaux, les serviettes, la bouilloire et le pied de table ont retrouvé leur liberté. Elle n'a plus jamais fait un seul nœud de toute sa vie. Sauf peut-être une fois. Un jour, où elle a ramassé un tas de bois tout sec pour allumer un feu dans sa cheminée. Et alors quand elle a fait son fagot, elle a pris une ficelle et puis elle a enroulé le fagot avec la ficelle et au-dessus, elle a fait un nœud tout petit et tout serré comme un noyau de cerise. Et elle a déposé le fagot dans l'âtre. Et vous savez ce qui s'est passé? Le feu, il s'est dénoué tout seul.
Dance in the morning when the world was begun, and I dance in the moon and the stars and the sun. I dance in the moon and the stars. I dance in the moon and the stars. I dance in the moon and the stars. Dance, dance, wherever you may be. I am the lord of the dance, said he, and I with you all. Wherever you may be, now I with you all in the dance, said he. saw the scribes and the Pharisees, but they wouldn't dance and they wouldn't follow me. Then saw the fishermen, James and John, they came with me and the dance went on. Dance, dance, wherever you may be, I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath and I drew the name. The holy moon was saved for the shame. With the treatment and the eye, left me there on the cross to die. Dance, dance, whatever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I give you all, whatever you may be. And I give you all in the dance, said he. Friday on sky turn black. It's hard to dance with the devil on your back. With the devil on your back, I have to dance and I still go on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, wherever you may be. And I lead you all in the dance, said he. I am the light that will never die. I live in you and you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, wherever you may be. I'm gonna lead you all in the dance, said he.
One more time.
Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, whatever you may be. And I lead you all in the dance, said he.
Yee!
Jacques Combes.
La toute première fois que j'ai parlé avec votre ami, c'était au téléphone. Et on s'était vu il y a très... Non, c'était la deuxième fois, parce qu'on s'était vu il y a quelques années avant à la maison du comte à Chevilly-la-Rue. Et puis, on l'avait bien tilté, elle et moi, et on était restés en contact. Et donc, ce jour-là, au téléphone, elle me dit, mais il faut absolument que tu viennes ici, à Bezette, tu verras, on dit du comte, et puis non, mais viens, 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 et puis je te ferai goûter du whisky. Et j'ai dit, Fiona, j'aime pas le whisky. Et là au téléphone il y a eu un grand blanc, un grand silence. Et puis après elle me dit, mais comment est-ce possible que tu n'aimes pas le whisky? Oh, j'ai dit, oh, c'est une vieille histoire, c'est un vieux truc, j'écoute. Non, j'aime pas, ça me fait vomir. Alors là j'avais dit ça, c'était vraiment un crime de lèse-majesté. Il me dit, mais pourquoi, enfin, c'est pas possible, viens, je te guérirai si t'es malade. Je dis, écoute, Fiona, il faut que tu saches que j'ai fait mon service militaire. J'étais pas content de faire mon service militaire. Et j'ai passé pas mal de week-ends sans rentrer chez moi à la maison. Et j'étais tellement malheureux, et j'étais pas le seul, qu'on allait au bar du mess, et on se prenait ce qu'on appelle des pitures. Vous savez ce que c'est, des pitures? C'est bien une espèce de soulographie grave et généralisée, avec des whisky, parce que c'était la boisson la moins chère du bar. Et je terminais donc ces week-ends ivre mort, à vomir tous mes boyaux de la terre. Et quand j'ai fini l'armée, je me suis promis de ne plus jamais boire de whisky. Et le simple fait de sentir, de renifler un verre de whisky me donnait la nausée, avec la mémoire sans doute du corps. Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais bu une goutte de whisky, jusqu'au jour où elle m'a dit, quand tu viendras là, je te ferai boire du bon whisky. Et il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus déjà, il y a 2 ans, je crois, hein, elle était avec nous ici, et donc elle m'a fait boire du whisky, elle m'a dit, tu te souviens ce que je t'ai dit? Elle m'a tendu le verre, et je commence à boire le whisky comme ça. J'ai eu une petite mémoire qui remontait comme ça, je l'ai laissé passer, partir, et puis depuis, ben oui, je rebois volontiers du whisky, je ne sais pas s'il y en a. Et comme il est tard, je vais vous raconter une micro-histoire. Mmh. Je
petit comme ça, histoire de se prendre ça. Ça se passe dans un frigo. Il y a un œuf. L'œuf, il regarde en haut, il n'y a personne. Il regarde en bas, il n'y a personne. À droite, personne. À gauche, personne. Bon, c'est très bien, se dit l'œuf. Puisque c'est comme ça, moi je me casse.
Ça vous a plu la première chanson tout à l'heure?
Oui.
Donc il y a une autre chanson que, à laquelle je pensais en pensant à Fiona, qui s'appelle, ça s'appelle The Slippy Stone, en scotch toujours, donc ça veut dire The Slippery Stone en anglais, la pierre sur laquelle on met le pied et on glisse et la vie bascule. Je pense qu'on a tous été surpris de la rapidité avec laquelle Fiona est partie. Moi je sais que, je ne sais pas en fait quand elle est partie, c'est comme si j'avais toujours imaginé qu'elle, ben, qu'elle serait toujours là, en fait. Je pense que ça, elle doit donner ce sentiment aussi à vous, peut-être, qu'elle serait toujours là. Et j'ai pas pu vraiment, ça, j'ai mis longtemps à comprendre ben, qu'elle n'était pas là. Enfin, elle est là. Elle est là, elle est là avec nous aussi, mais ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Et il y a quelque chose qui m'a aidée. Il y a une amie qui viendra peut-être... cet été, une amie d'Écosse, une amie qu'elle m'avait fait rencontrer, qui s'appelle Claire, avec qui je suis assez souvent en contact, et qui m'a dit, Fiona, elle m'a dit, la dernière fois qu'elle avait vu Claire, elle avait dit, Brigitte, she's my angel on earth. Elle est mon ange sur terre. Et quelque part, c'est un super cadeau qu'elle m'a fait, c'est juste que j'arrive à penser à elle avec bonheur plutôt qu'avec tristesse quand je pense à ça, en fait. Et cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai apprise en Écosse, donc ça dit simplement... faut faire attention là où on met le pied dans la vie. Il y a plein de pierres en fait sur lesquelles on peut déraper. Que si quand quelqu'un dérape, il faut lui tendre la main, l'aider à se relever parce qu'un jour ce sera nous. On a beau avoir plein de richesses quelque part dans un coffre, que quelqu'un s'occupe de toi, ça n'a pas de prix. Que si ton voisin ça lui arrive, il faut absolument pas le laisser là où il est. Il faut l'aider à se relever. Et que ça peut arriver qu'on soit dans un palace, dans une cabane. Dans une maison, que c'est arrivé à des empereurs, à des rois, à des nobles, ça arrive à tout le monde. Et j'ai chanté ça en pensant à elle quand elle m'a appelée au mois de décembre et qu'elle m'a dit de venir lui donner un coup de main. Et puis qu'elle m'a dit « tu reviens » et la dernière fois d'après, quand je m'apprêtais à venir la trouver, je l'ai appelée, elle m'a dit « je pars en ambulance ». C'est le moment où elle quittait sa maison, j'ai même pas eu le temps de revenir là. Je l'ai vue après l'hôpital, mais je ne l'ai pas revue chez elle. The Slippy Stone, la pierre qui vous fait basculer. Uncanny through this weary world, and tacky steps we care. And never dare your neighbor ill, but always there what's fair. Someday the cares may be your reign, though you have wealth in store. There's a muckle sleepy stain, a tockle buddy's door. There's a muckle sleepy stain, at O'Cullbuddy's door. Now if your neighbour chance to fall, or dinner passing by, but lend your hand and help him up, and dinner let him lie. Uncanny through this weary world, and tacky step we care, and never day your neighbour ill, but always they watch fair. For some folks fall and seldom rise, that never fell before. There's
Marie no there's a yamako sleepy stain. I don't care, but he's no. No, if you never chance to fall, or didn't pass him by, but lend your hand and help him up, and didn't let him lie. Someday the cares may be your aim, though ye have wealth in store. There's a yamako, sleepy sin, a roko, but he's no. There's a yamako, sleepy sin. Aroko, Paristo, the sleepy stains are everywhere, bit palace hut or hall, and human gang, and egang rang, or even yeman fall, for emperors and kings are fallen, and nobles mourn either store. There's a yamako, sleepy stain, a roko, but he's no. There's a yamako, sleepy stain. But he's no.
Yveline Méa.
Juste une petite histoire sur le Loch Ness. Un homme sur une barque avec des rames sur le Loch Ness. Oui, le Loch Ness. Oui. Alors, il est là en vacances. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme par ça qu'il il est athée. Sinon, c'est pas intéressant. Donc, il rame sur son barque. Et puis, tout à coup, il voit devant lui se dresser un cou énorme avec une toute petite tête en haut, comme ça. Oh, c'est Nessie devant lui, comme ça. Alors, l'homme, il fait « Oh, mon Dieu, aide-moi !» Et derrière lui, une grande vague qui se lève et la voix de Dieu lui répond « Je croyais que tu croyais pas en moi. » Et non, mais je croyais pas en le monstre du Loch Ness non plus.
Voilà, l'émission se termine avec cette chanson et cette soirée en hommage à Fiona MacLeod. Merci, merci Fiona, de nous avoir rappelé que le conte et l'art de conter sont non seulement toujours d'actualité, mais ils sont devenus indispensables dans une civilisation où la technologie nous fait oublier la simplicité d'une parole partagée. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis au mois prochain.
Ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.